con toda palabra, con toda sonrisa.
Bonjour, à l'air libre aujourd'hui se déplace à Londres, dans le quartier de Golders Green, au nord de Hampstead. Un quartier qui accueille beaucoup de migrants d'Europe centrale et des Balkans, en particulier aussi des communautés juives. Nous y retrouvons Maurice Fari, un écrivain de parents turcs juifs qui est né à Ankara, qui a fui la persécution dans son pays et qui a immigré en Angleterre en 1954. Il y a fait ses études, il y a étudié le théâtre, il y est resté. Et il est connu en Angleterre pour ses romans, plusieurs romans qui ont été plusieurs fois primés. En France, seul un titre a été traduit, Jeune Turc, paru chez Buchet Chastel en 2006, qui a connu un très grand succès public et critique en Angleterre, un assez grand succès critique également en France, et qui a été traduit dans de nombreux pays. Maurice Fari est aussi connu pour ses essais, en particulier Dieu nous garde de la religion, God Save Us from Religion, d'autres aussi tels que All History is a History of Migration, toute histoire est une histoire de migration, qui font écho à ses activités militantes. Il est en effet depuis 25 ans le vice-président du Pen Club International, qui milite en faveur des écrivains persécutés ou emprisonnés par des régimes répressifs partout dans le monde. Nous retrouvons Maurice Fari dans son appartement chez lui dans le quartier de Golders Green.
Que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo.
Merci, c'est un grand honneur de vous recevoir ici. Vous êtes chez vous et j'espère que chaque fois que vous venez à Londres, premier pas ici.
Je viendrai okay. Vous rendre visite.
Ok.
Dans ce Londres cosmopolite. Peut-être que Londres aujourd'hui est devenue la ville rêvée, peut-être pas totalement, mais en partie un petit peu l'Istanbul perdu.
Oui, c'est devenu une ville très multi-ethnique, avec tous les réfugiés, puis les gens qui sont venus comme immigrants, qui sont venus ici, c'est devenu une ville magnifique. Parce que c'était comme une prise de sang qu'ils ont pris, les Londoniens.
Avec du sang neuf venu d'ailleurs.
Du sang neuf. Et puis c'est devenu une ville très animée. Quand je suis venu la première fois, c'était une ville assez morte. Mmh. Tout s'est fermé après 6h30, tout ça. Mais maintenant, c'est une ville où la vie continue 24 heures par heure. Un peu comme Istanbul.
Alors peut-être qu'il faut nous raconter, parce qu'en Angleterre, vous êtes assez connu. Vous avez publié plusieurs romans, plusieurs essais. En France, il n'y a que Jeune Turc qui est apparu jusqu'à présent chez Buchet Chastel. Donc on est moins à votre histoire. Peut-être qu'il faut, avant de parler des livres et de la littérature, raconter pourquoi vous êtes arrivé à Londres, pourquoi vous vous êtes installé ici, et qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti d'Istanbul déçu.
Je suis parti d'Istanbul, enfin, c'est très difficile à dire. Je suis parti d'Istanbul en 1954. C'était une époque où je suis venu ici pour étudier le drame. Et c'était une époque où il y avait beaucoup de suppression contre liberté de voix, liberté d'écrire et tout ça. Donc, quand j'ai fini mes études ici sur le drame, mon père a dit pour le moment ne viens pas parce qu'il y a beaucoup d'arrestations et tout ça parmi les artistes et tout. Alors je suis resté, à l'époque je me suis amouraché d'une jeune fille, je me suis marié, et puis quand c'était possible de rentrer en Turquie, elle n'a pas voulu de rentrer. Et d'ailleurs à cette époque là le mariage n'allait pas très bien, mais je suis resté quand même. Et j'ai dit, bon, je vais suivre une carrière dramatique.
Acteur.
Ouais. Mais je ne pense pas que j'étais très bon acteur, donc ça n'a pas très bien marché. Mais parmi le temps que je travaillais dans les, pour la télé, dans les studios, j'ai vu que les scénarios qu'ils faisaient, ce n'était pas terrible. Donc j'ai dit, ben, peut-être je peux écrire autant mieux. Donc j'ai commencé par écrire pour la télé. Et puis, à une époque, ils m'ont demandé d'écrire un roman parce qu'ils avaient vu une pièce policier de moi à la télé. Alors, donc, un éditeur qui s'appelait Constable à l'époque m'a demandé d'écrire un livre. Donc, à cette époque-là, je n'avais pas le courage d'écrire un livre. Mais j'ai dit, bon, je vais essayer.
C'était en quelle année, ça?
72.
Ouais.
Et le livre a bien marché, enfin pour le livre roman, policier. Donc, mais une fois qu'il était sorti, alors j'ai eu le bug, comme on dit, j'ai eu le virus d'être romancier. Donc, après ça, j'ai essayé d'écrire des romans. Et à l'époque, vous savez, la télé qui était magnifique en Angleterre dans les époques de 60 et 70 a été un peu changée avec des problèmes commerciaux et tout ça. Donc il y a eu, avant, dans les années de 60 et 70, on avait le droit, dans le BBC surtout, le droit de faire quelque chose qui pouvait faillir. The right to defeat.
On avait droit à l'erreur.
Ouais. Et puis donc, avec cette permission, chacun tâchait de faire quelque chose de bien. Ouais. Et parfois, on réussissait, parfois, pas non. Mais avoir le droit de faillir ou d'erreur, je pense que c'était le meilleur apprentissage qu'un écrivain aurait pu avoir. Donc, comme ça, vous compreniez ce qui était là où c'était votre forte, comment on dit, strength,
votre force.
Votre force. Ouais. Sur le crime, et là où vous étiez, pas tellement faible, et donc on pouvait, d'une façon à l'autre, concentrer sur la faiblesse pour être fort. Donc c'était un apprentissage très, très, très important. Et puis j'ai écrit un roman en 1983 qui a été Last of Days, le dernier des jours, qui a très bien marché et en Angleterre et en Amérique. Donc à l'époque, j'ai pris assez d'argent de cela. Donc je pensais que je pouvais continuer okay. comme un romancier. Voilà, c'est.
Okay. Mais à cette époque-là, Maurice Farry, vous n'avez pas eu envie de repartir à Istanbul? C'était trop difficile? La situation avait trop changé à ce moment-là?
Non, à cette époque-là, vous savez, j'avais déjà changé mon chemin. J'avais arrêté d'écrire en turc et ouais. J'avais commencé à écrire en anglais. Et de jour en jour, mon anglais a improved, comment on dit, c'est devenu mieux.
Ouais.
Et mon truc, c'est devenu mal. Parce que, vous savez, une langue, c'est comme un sportsman, il faut toujours pratiquer la langue. Ouais. Et moi, j'étais isolé de ma langue maternelle. Ouais. et aussi de son littérature. Donc, à cause de cela, je concentre beaucoup sur la langue anglaise et sur la littérature anglo-saxon, anglophone. Dans les 1980, c'était presque impossible de pouvoir retourner en Turquie si je voulais continuer comme écrivain. D'ailleurs, la langue, le turc avait changé beaucoup parce que ils ont introduit des mots nouveaux partout. Donc, c'était une langue que c'est un peu étrange pour moi. Et comme je n'ai pas suivi la langue par sa progression, c'était difficile de le reprendre. Donc, j'ai continué avec l'anglais. À cette époque-là, c'était presque impossible de partir.
Et
pour mon carrière, ça veut dire.
Ouais. Et vous vous êtes retrouvé dans ce quartier-là, déjà, à Londres, qui est un quartier où il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi, des Juifs, des Grecs, des Turcs, j'imagine aussi.
Oui.
C'était déjà dans ce quartier-là que vous habitiez?
J'ai toujours tenu un contact avec le diaspora turc, surtout. Mais ici, il y avait la diaspora turque de Crète, par exemple, de Chypre, pas de Crète, de Chypre,
ouais.
Ainsi que la diaspora. Ici, les Grecs et les Turcs chypriotes s'entendaient très bien,
ouais.
Tandis que là, ils étaient en bagarre. Donc, j'ai toujours tenu à ma racine d'une façon. Je suis toujours allé visiter des restaurants turcs ou grecs ou cypriotes et boire avec des gens. Et il y avait aussi beaucoup des immigrants kurdes, parce qu'à cette époque-là, il y avait une grande bataille dans la Turquie.
Les Kurdes étaient chassés beaucoup.
Beaucoup. Beaucoup sont venus ici pour refuge. Beaucoup de Kurdes. Donc, c'était d'une façon d'avoir un contact avec le pays. Mais la plupart de ces gens, c'était des. Vous savez, d'une idéologie qui n'était pas très littéraire. Ils étaient plutôt des gens politiques, ouais. qui étaient sortis. Donc, je ne pouvais pas avoir de contact littéraire avec eux, seulement un contact du cœur, d'être ensemble dans un pays étranger, mais d'être du même pays. Si vous.
Oui.
Et donc c'était plutôt des rencontres de nostalgie.
Mais du même pays tel qu'il était, dans une situation idéale, presque idyllique, c'est-à-dire... En fait, vous n'étiez pas du même pays, puisqu'il y avait des Grecs, des Chypriotes, des Kurdes, Grecs, mais sûrement pas uniquement Grecs, pas uniquement Turcs, plutôt. Mais c'est Istanbul et la Turquie telle qu'elle était dans une période cosmopolite aussi.
Ça a changé beaucoup. Imaginez-vous, quand j'ai quitté Istanbul en 1954, la population de la Turquie, c'était à peu près 18 millions. Et Istanbul, c'était une ville de à peu près 900 000 personnes.
Ah oui.
Aujourd'hui, la population de la Turquie approche à 80 millions.
Ouais.
Et Istanbul, c'est un grand cité de presque 17 millions. Et donc... Avec cette avalanche de naissance des musulmans, donc les minorités de Turquie,
oui.
sont aussi très,
oui.
très fortes. Donc, à mon époque, quand il y avait les... cette grande entente courtienne entre toutes les différentes races et différentes religions de la Turquie. Maintenant, c'est plus difficile parce qu'ils sont dans une minorité très petite.
Ouais.
Donc, ils ont toujours, dans la communauté, ils ont toujours quelque chose, mais c'est leur culture n'a pas aussi d'influence qu'il avait avant. Ouais. La culture est toujours là et on a toujours, courant que c'est là. On s'aperçoit toujours que la culture est là, mais parfois c'est difficile de faire un intercourse, comme on dit, de faire l'amour avec ces cultures.
Oui. Alors justement, Jeanne Turc, le roman qu'on connaît en français de vous, se déroule dans ces années-là, entre 1940 et 1950. C'est un parcours un peu chronologique, mais pas trop chronologique non plus, mais on voit l'évolution quand même. On voit les choses bouger. C'est une période où ça bascule un petit peu, et que justement les minorités qui vivaient en communauté, en bonne harmonie, peu à peu se sentent mises en danger. Je l'ai dit, vous étiez arrivant à Londres aussi dans une minorité, finalement, un Turc juif arrivant à Londres. C'était peut-être pas facile en arrivant à Londres, mais quand vous étiez à Istanbul, c'était avec d'autres gens qui étaient aussi des minorités.
Oui,
vous viviez finalement plutôt bien.
On vivait bien. Il y avait seulement la seule chose qu'on avait, c'était la peur, de dire que, parce que vous savez, il y avait la liberté d'expression, c'était assez supprimé en Turquie à l'époque, dans les dernières années de 50. Et ce qui était difficile, c'était que si vous étiez dans un autre métier que, disons, la littérature, le drame, ou le cinéma, ou quelque chose, il n'y avait aucun problème. Mais si vous étiez dans un métier comme la littérature, ou le drame, ou quelque chose, et que vous vouliez, comme Shakespeare dit, mettre un miroir sur la vie de la Turquie, c'était dangereux. Et il y avait toujours la peur que si on voulait parler sur certains sujets, montrer certaines injustices et tout ça, que vous pourriez être persécuté pour ça.
Ouais.
Et c'est cette peur. Il y a aussi une chose, un lâcheté là-dedans, parce que normalement, il faut lutter contre ce genre de choses. Et j'ai eu beaucoup d'amis qui ont lutté. Moi, je pense que j'étais assez lâche de dire non, je ne retourne pas, parce que je peux le dire ici au lieu de là. Ici, je suis à Londres, en Angleterre. Je ne suis pas persécuté, je peux dire ce que je veux. Et c'est cette lâcheté qui me, je pense, qui m'a obligé de rester ici d'une certaine façon.
Et qui vous a permis d'écrire aussi.
M'a permis
peut-être de dépasser des barrières que vous n'auriez pas pu dépasser à Istanbul.
Il m'a permis d'écrire, mais je me sens toujours très coupable.
Ouais.
Parce que mais d'autres façons, je ne donne pas ça comme une excuse, mais d'autres façons, j'ai aperçu que si j'allais en Turquie, je devais recommencer à apprendre la langue pour pouvoir écrire en turc. Parce que jusqu'à ce temps-là, j'avais concentré surtout sur l'anglais, et puis la langue turque avait changé. Donc, pour joindre la bataille contre la suppression de liberté d'expression, il fallait vraiment réapprendre la langue.
Ouais. Pour
habiter la langue. Ouais. C'était très difficile, j'étais pas jeune encore.
Est-ce que, je voudrais qu'on arrive au livre, mais on va y venir un petit peu plus tard, mais est-ce que cette culpabilité vous a poussé à vous engager de façon active jusqu'à être vice-président du Pen Club dans ce combat pour défendre la liberté de parole des écrivains au niveau international?
Oui, j'étais toujours, parce que j'étais bien marqué. Vous savez, un des plus grands poètes, je pense, du XXe siècle, Nazım Hikmet, qui a passé des années en prison pour être ce qu'il était, un écrivain qui, à mon avis, le meilleur patriote de la Turquie, parce qu'il aimait tout le monde, tous les différents peuples de la Turquie. Et le fait qu'il n'a pas pu rester en Turquie, il a dû échapper en Russie, était quelque chose qui m'a beaucoup influencé, parce qu'il m'a dit, c'était si un génie, un de véritables génies du XXe siècle, ne peut pas rester dans son pays, qui était le plus grand poète du monde, un des plus grands poètes du monde à l'époque. Je dis, il n'y a pas une chose, pour moi, il n'y a pas un espoir qu'on peut... une fois que j'étais ici et qu'il y a le Pen Club qui a commencé à... Ils ont commencé par défendre les écrivains russes qui ont été mis dans des maisons de fous. Vous savez,
oui.
Alors... et sans aucune raison, mais ils ont été drogués et donné des médicaments terribles, tout ça. Alors, à cette époque, je dis, il faut joindre cette lutte contre la suppression de l'expression, de la liberté d'expression. Donc, pour moi, c'était... c'était, après avoir vu Nazım Hikmet, c'était un devoir que je devais faire, une obligation. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec Pen.
Aujourd'hui...
Je continue toujours.
Ouais. Quelles sont les actions importantes aujourd'hui, à votre avis, du Pen Club?
Non, c'est, à mon avis, le Pen Club est très important ils ont plusieurs programmes. Un des programmes, c'est d'introduire la littérature des langues qui ne sont pas tellement connues et qu'il y a des œuvres vraiment magnifiques dans ces langues-là. Donc, Pen tâche d'exposer ces écritures. Mais à mon avis, le plus important travail que Pen fait, et peut-être que je suis un peu préjugé sur ça parce que c'est mon domaine, c'est qu'il lutte beaucoup contre la liberté de l'expression. Ouais. Donc, ça passe sur plusieurs étapes. Par exemple, quand j'étais chef du comité des écrivains en prison, on emprisonnait beaucoup de gens, et c'était une lutte terrible, mais à cause du fait que Pen a été assez successful, assez, comment on dit,
a eu plusieurs succès
pour sauver des écrivains. On est devenu un peu... maintenant, le gouvernement, par exemple, il y a certains gouvernements, bien sûr, comme Chine, Iran, qui emprisonnent, mais plusieurs gouvernements préfèrent de ne pas emprisonner les écrivains, mais de les exiler. Et ça fait une question assez difficile, parce que une fois qu'un écrivain est exilé, une fois qu'il est sorti de sa racine, Imaginez-vous, disons, un écrivain d'Irak qui va en Suède. C'est un endroit géographiquement terrible parce qu'il vient de la soleil dans l'obscurité. Et puis aussi, il ne connaît pas la langue, il peut même pas lire quel bus il doit prendre, quelque chose. Et pour eux, c'est un mort moral, mort de l'âme, parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas des gens qui peuvent le lire, il n'y a pas des éditeurs qui peuvent le publier. Donc, et ils n'ont pas une voix dans le pays où ils étaient, parce qu'ils ne peuvent pas publier là-dedans. Donc ça c'est un problème très sévère et c'est un problème assez vilain de gouvernements qui font ça. C'est une façon de se débarrasser d'un écrivain qui a pouvoir dans le pays.
C'est finalement une situation, celle de l'exil forcé. Vous n'avez pas réellement vécu parce que vous avez choisi.
Moi, je sais.
Même s'il y a peut-être du regret d'un état idéal de la Turquie et d'Istanbul que vous avez connu, mais vous n'avez pas souffert de ça.
Non. Ouais. Non, je n'ai pas souffert aucune persécution de cette façon. J'ai eu des emails qui étaient qui me threaten, comment on dit, qui me disaient gare à toi, parce que
c'était des menaces,
des menaces, parce que c'était pour des gens que notre comité protégeait, c'était pas pour moi. Donc non, j'ai pas du tout souffert de ça.
Alors revenons à ce roman Jeune Turc que vous avez écrit récemment, qui revient sur cette période. On dirait que c'est à la fois pour vous une façon de revenir politiquement à une situation qui peut intéresser Istanbul et la Turquie aujourd'hui, et l'Europe, mais aussi que c'est un roman très personnel sur votre propre jeunesse. Est-ce que vous avez essayé de faire un mélange entre ces deux options de discours à l'intérieur d'un roman, ou est-ce que c'est venu par hasard?
C'est difficile à répondre. Je pense que d'une façon, je ne peux pas dire que j'ai plané de cette façon.
Planifié
de cette façon. Mais je pense que le but du roman, c'était à un instant de montrer qu'il y avait une coexistence magnifique parmi les différents peuples qui habitaient en Turquie dans mon époque.
Ouais.
Et deuxièmement, c'était une prière que la nouvelle Turquie, la Turquie du présent, pourrait atteindre cette coexistence, surtout en rentrant à l'Europe, surtout en adoptant une vie multiculturelle et pas seulement turc et musulman.
Oui.
Donc, c'était vraiment un genre de prière, je pense, qu'il y a une correspondance avec notre temps et le temps présent. La correspondance, c'est que dans notre temps, il y avait la coexistence. Maintenant, il y a problème de coexistence. Donc, si on pouvait atteindre la mentalité, le moral de mon temps, des années de 50, et ainsi, avec ça, avoir la volonté de rentrer en Turquie, en Europe, Et les Turcs, ils veulent entrer en Europe.
Ouais.
C'est l'Europe qui parfois résiste. Que cette coexistence de divers peuples, diverses races, diverses religions peut coexister sera possible.
Ouais.
Donc c'est un genre de. Un côté de. Tâcher de faire un portrait d'une époque où la coexistence existait, et d'autre côté, de tâcher de dire que. Une coexistence pareille peut être possible.
Ouais. Donc c'est un portrait qui se fait à travers quantité de personnages qui forment chacun un chapitre du livre, puisque à chaque fois on rentre dans la tête, dans l'esprit d'un des personnages. Il y a 13 personnages en tout, donc 13 histoires, et ce sont des gens très différents, de culture religieuse, d'ethnie, d'origine, très diverses. Et c'était, je me demande si c'était à l'image de des gens qui vous entouraient quand vous étiez jeune étudiant. On a l'impression que c'est un cliché de vos années d'étudiant, où vous avez repris une classe et vous avez réutilisé ces personnages pour en faire un roman.
Je ne sais pas si c'est un cliché, mais j'étais dans une ambiance pareille où il y avait beaucoup de différents peuples.
Et quand je dis un cliché, c'est comme une photo prise à un instant donné. Pas exactement. Une idée reçue.
C'était comme ça. J'ai vécu dans une ambiance pareille. Et pour moi, c'était vraiment, il n'y avait pas une distinction entre un juif ou un arménien ou un turc ou quelque chose. Alors, c'était pour moi, c'était une société idéale parce que peut-être je suis devenu idéaliste à cause de ça.
Ouais.
C'est une société idéale où tout le monde pouvait coexister. Et le livre est, un portrait impressionniste de mon temps, avec tous ces différents gens, avec tous ces différents personnages qui étaient de différents. Culture, si tu veux, mais qui était vraiment des Turcs. On s'appelait tous des Turcs parce que c'était pour nous, c'était un grand honneur d'être Turc et d'être des enfants de Atatürk qui allaient faire la Turquie un exemple en Europe qui était, vous savez, l'Europe. Après la guerre et tout ça, avec, qui était plein de.
Qui se reconstruisait aussi.
Et qui a. Là où des millions ont été tués, ou dans la guerre, ou dans l'extermination et tout ça. Donc, pour nous, c'était une chose, un grand idéal. Et c'était. Tâcher de donner un portrait impressionniste, comme je vous ai dit, de cette époque. Je pense qu'il y a peut-être un peu du romantisme, un peu d'idéalisme.
Oui, mais il n'y a pas de naïveté non plus, parce que tout n'est pas drôle dans ce livre. Il y a une certaine exubérance de ces jeunes étudiants, beaucoup d'amitié, beaucoup d'espoir et d'idéalisme. Mais il y a aussi des moments qui sont des moments de lutte, des moments qui sont des moments de mise en danger de certains des personnages. Parfois c'est même une identité qui est niée, puisque d'une certaine façon vous vous mettez en scène aussi. Là il y a un personnage qui s'appelle Moussa et qui prend le prénom de Maurice et face au professeur qui trouve ça un peu absurde, qui se défend.
Ça, c'est une vraie histoire.
C'est une vraie histoire.
C'était un cas. Parce que vous savez, tous les noms turcs ont un meaning.
Un équivalent.
Meaning.
Une signification.
Donc, comme Moussa, c'est Moïse. Oui. Moses. Tous les noms, ils ont une signification. Maurice, c'est un étranger. Il n'y avait pas, donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce professeur qui me demandait tout le temps que ça veut dire Maurice, que ça veut dire Maurice. Alors j'ai changé Maurice qui termine avec S, avec Z, parce que ça fait une trace violette.
Mort, oui, c'est violet. L'explication, c'est mort signifie violet et is en turc signifie sentier. Sentier ou trace.
Trace, oui.
La traduction, c'est sentier. Mais, voilà, ça laisse une trace.
Ça laisse une trace. Et c'était parce qu'il y avait cette légende à l'époque qu'on entendait avec là où venaient les Turcs, c'était la légende qu'ils étaient tous renfermés dans une vallée. Dans Asie centrale, et il n'y avait pas un endroit pour sauver. Et puis cette wolf,
le loup,
un loup gris qui est venu et qui les a amenés, qui les a montré le chemin.
Atatürk, c'est le loup gris.
C'est lui qui a pris à cause de cette. Comment on dit, cette mythe.
C'est, oui, à cause du mythe,
Il s'est appelé le Grey Wolf, qui était le loup gris qui a amené la Turquie au sauveté. Et c'était cette... Donc, j'ai dit, pour voir qu'il traverse la montagne qui entourait les vallées, il a laissé une trace violet.
La première fiction qui transformait Moussa en Maurice et en héros national.
Il ne l'a pas cru, mais il n'a plus rien
dit. Il n'a plus rien dit. Mais c'était une façon de faire.
C'était une persécution.
C'était une petite persécution, mais une persécution quand même. Ouais. Il y en a d'autres qui sont plus sévères dans le livre. En particulier les références aux juifs, justement, parce que c'était une période un peu ambiguë, où le pouvoir, d'un côté, défendait ou prétendait défendre les juifs, et de l'autre côté, n'était pas trop vaillant face à l'hostilité des Allemands, et cédait facilement.
Il faut dire que avec cette taxe qu'ils ont imposée sur les minorités, y a pas, je ne sais pas combien d'Arméniens ont mort, mais pas beaucoup. Mais seulement 29, je pense. 29 juifs ont été morts.
Et en Turquie.
En Turquie. Ouais. Et ils étaient dans un camp de travail, et c'était des gens qui étaient assez âgés. Le camp était dans un endroit en Anatolie qui faisait très froid, donc ils sont de cœur de crise, la crise de cœur ou à cause du qui faisait très froid.
Du froid, oui.
Je veux dire, en comparaison à ce qui s'est passé en Europe, c'était rien. C'était des moments très difficiles, des moments très, pour nous, très tristes, surtout parce que mon père a été dans un camp de travail, comme un soldat, ils l'ont pris. Et on n'a pas eu de son nouvelle depuis, pour 6 mois, 9 mois, quelque chose pareil. Mais il était sauf, et nous étions saufs. Et nous n'avions pas aucun argent, nous étions complètement... Il y avait seulement un matelas dans la maison, ils avaient pris tout. Mais nos amis, nos voisins musulmans, turcs, ils nous ont toujours donné de manger, amené de manger. Et c'était une époque où tout le monde était très pauvre. parce que c'était pendant la guerre, il n'y avait rien. Donc on mangeait du pain, des olives, un peu de fromage, et des oignons, et c'est tout. Mais je ne suis jamais allé à l'école. Il fallait payer pour l'école et il fallait payer le loyer. Mmh. Et c'était eux qui ont pris...
Les voisins.
Les voisins. Ouais. Anonymes,
ouais.
Presque. Ouais. On ne savait pas, il y avait toujours, par exemple, je pense que c'était chaque vendredi après la prière dans la mosquée, il y avait un paquet. Nous étions dans un bâtiment, il y avait 6 appartements, quelque chose pareil. Il y avait 4 juifs dans cet appartement. Et il y avait 4 paquets.
Oui.
Avec le nom écrit. Mon école a été payée. Le loyer a été payé. Donc, c'était une époque où ceux qui étaient pro-allemands voulaient imposer les lois allemandes pour toutes les minorités. Mais la plupart, et surtout le président, a tâché de réduire la persécution.
Ouais.
Donc, il y a eu des persécutions, mais ce n'était pas aussi terrible que c'était en Europe.
Alors.
Et quand, je m'excuse, et quand les hommes sont revenus, parce qu'à l'époque, en 1944, fin de 1944, ils ont dit on excuse tout le monde de ça, c'était une taxe qui n'était pas juste, et on a les gens qui devaient des millions, à l'État, on était, comment on dit, on les a dit amnestie, et les gens qui sont venus comme mon père ont pu trouver leur travail, parce que leur travail a été protégé par aussi des voisins musulmans.
Alors, là, on a cette période-là avec des vicissitudes. Il y a beaucoup de récits parce que, comme toutes ces histoires sont racontées de l'intérieur, il y a des vies multiples avec des parcours très différents. Il y a quand même un moment commun qui est cette année d'étudiants avec des enseignants parfois difficiles, comme celui qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi parfois qui, au contraire, encourageaient la vie multiculturelle et qui vous poussait à faire du mieux possible, en particulier peut-être à devenir écrivain, parce que un des professeurs s'amusait à trouver le métier de chacun d'entre vous par ordre alphabétique. Et Zikri, qui est le personnage peut-être le plus proche de vous, se voit trouvé comme métier par l'enseignant d'être écrivain.
Obligé.
Il va falloir qu'il fasse ça. Et lui, le prend avec beaucoup de surprise. Quand même. Donc il y a des moments comme ça plus amusants.
C'est amusant. Et aussi, vous savez, pour moi, c'est très touchant parce que ça fait partie de l'idéologie. Parce que quand on divisait les métiers parmi les étudiants, on disait 5 personnes seraient ingénieurs, 10 personnes seraient docteurs. Parce que c'était pour
planifier le pays en devenir...
Exactement, et pour devenir européen, pour devenir mieux. Alors, c'est un idéalisme. Parce qu'il faut savoir que ça, c'était dans les ans 40, disons. Et ou 45, 50, il y a peut-être même pas 30 ans que la République a été construite. Mmh. Et avant ça, c'était l'Empire
Ottoman. Tout neuf.
Avant ça, c'était l'Empire Ottoman qui était à l'époque 2 siècles plus en retard de toute l'Europe. Donc c'était une grande démarche pour atteindre le 20e siècle de l'Europe dans 20, 25 ans, 30 ans. Donc l'idéalisme que vous étiez les enfants de d'Atatürk et que vous deviez travailler pour faire le pays un modèle pour toute l'Europe, de coexistence et de tout ça. À moi, c'était un idéalisme très touchant.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'on était immédiatement, on était d'accord. On était un peu indoctrinés, mais quand
oui,
même.
Oui, mais c'est lui quand même, particulièrement par cet enseignement aussi. Là,
ouais.
Ouais. Et on va s'approcher de la fin de l'entretien, mais il y a aussi dans ce livre, puisque ce sont des jeunes gens et des jeunes filles, il y a aussi des histoires beaucoup plus personnelles, avec beaucoup de sensualité, de la sexualité aussi, qui est très présente dans le livre. Étrangement, certains critiques ont noté beaucoup plus souvent cet aspect sensuel, ramenant le livre à quelque chose d'un peu mythique du côté des mille et une nuits, en omettant peut-être le côté politique. Et je me demande si finalement cette espèce d'harmonie sexuelle qu'il y a dans le livre n'est pas aussi une sorte de discours politique de votre part. Comme si l'idéal politique de l'époque pouvait aussi finalement se retrouver dans un idéal humain qui se traduit par une sensualité partagée et sans combat.
Oui, vous avez tout à fait raison. À mon avis, dans mon ancien âge, je pense que vous savez, c'est un cliché quand même, « make love, not war ». C'est devenu un cliché, mais à mon avis, c'est que nous avons vécu dans une civilisation, surtout pendant les 2-3 siècles avant, qui était une civilisation de colonisation et tout ça, qu'on est dans un... on est dans une civilisation qui est plus, qui est beaucoup plus présent maintenant, qui aime la guerre, qui aime la force, qui donne beaucoup de choses, et du tout à ce qui est, à mon avis, le plus important, c'est que les relations entre hommes et dames, ou hommes et hommes, c'est pas... l'amour. L'amour le... comment on dit... le compulsion pour l'amour, le désir pour l'amour, est toujours abattu par l'impératif de guerre, l'impératif de conquête, de soi-disant corriger l'histoire avec des guerres et tout ça. Et cette mentalité martiale qui nous domine, à mon avis, c'est, ça va finir par finir le monde. Donc, la sensualité que je pense, c'est que s'il y a un diversion de guerre pour l'amour, peut-être on pourra être sauvé. Mon nouveau livre, c'est presque sur cela. Peut-être c'est encore un autre idéalisme, mais je ne vois pas un autre endroit. Je ne vois pas comment le monde finira avec, par exemple, des gens comme Bush qui ment pour et pour soi-disant pour établir la démocratie, et il a tué 200 000 personnes plus. Donc cette la gloire, c'est toujours pour la guerre et l'honneur et tout ça. Pour moi, la gloire est toujours pour l'amour. Donc la sensualité, c'est là pour peut-être donner une idée que c'est beaucoup mieux de faire l'amour que de faire la guerre.
Eh oui, on en revient à une formule classique, mais
oui,
qui est
mais...
toujours vraie pour vous. C'est pas
pour
c'est
moi,
pas c'est... une idée en l'air, c'est pas une formule en l'air.
Non, c'est pas une formule. Hein. Il y a eu tant de philosophies de comment dire diriger un gouvernement, tant de philosophies politiques, et ils n'ont jamais réussi à, il n'y a jamais eu une philosophie en disant que assez de faire de guerre, essayons d'être amoureux de chacun d'autre. Je ne dis pas que ça doit être finir dans le lit, mais avoir l'amour pour un autre peuple, une autre religion, une autre culture, c'est l'amour en tout.
Ouais.
On est plus indoctriné par la haine que notre capacité d'aimer. Et nous avons une grande capacité d'aimer.
C'est ce qu'on ressent à la lecture de ce livre, Jeanne Turc. On a une grande capacité. Mais on peut dire peut-être juste un mot de ce prochain roman, Maurice Farry,
oui,
apparaître, hein, que vous venez juste de terminer.
Je suis en train de terminer, oui. C'est un roman contre toutes les malheurs que vient de protéger l'honneur. Il y a l'honneur du pays, l'honneur de religion, l'honneur de
encore
régime.
Encore un grand sentiment martial, finalement, l'honneur.
C'est une métaphore, c'est une histoire d'amour, mais c'est une métaphore pour contre tous ces grands noms qu'on nous donne, todo por la patria, honneur, pour tout. Ce sont des mots pour mener des centaines de milliers de gens à leur mort, tandis que si on dit, ben, écoute, peut-être ça serait mieux de comprendre ce que l'autre personne est, peut-être comprendre ses idées, d'avoir un dialogue, même de l'aimer. Surtout de l'aimer.
Surtout.
Parce que une fois qu'on connaît, on l'aime.
Ouais.
C'est quand on ne connaît pas qu'on ne l'aime pas.
Ouais.
On a toujours peur.
Comment s'appelle ce roman ?
Ah, pour le moment, c'est My Face Upon My Lover. Mon visage sur mon amant.
Bien.
Pour le moment.
Pour le moment. On attend la fin de l'écriture de ce livre.
Merci.
Après la traduction. Merci Maurice Farry pour
Merci,
cette rencontre à Londres.
Merci à vous.
À bientôt.
Inch'Allah.
Con toda palabra, con toda sonrisa.
Cette émission à l'air libre spéciale Londres avec Maurice Farry se termine. Nous avons parlé essentiellement de ce livre Jeune Turc qui est publié aux éditions Buchet-Chastel en France. Vous le trouverez facilement. Il n'y a pas d'autres livres prévus actuellement en traduction en France, mais le prochain sera vraisemblablement publié par le même éditeur. Vous trouverez l'ensemble des références dont nous avons parlé sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org. De même que l'annonce de la prochaine émission dans un mois. Très bonne journée.
Todo es mudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca. cas.